quand je commençais à être engagé au lycée, j'avais monté, à 16 ans, j'avais monté mon premier groupe antifasciste. Tu vois. Enfin voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, n'est-ce pas?
Bon,
j'ai commencé à 5 dans une cabine téléphonique. Après, bon, j'ai fait des choses un peu plus sérieuses. Je me suis engagé à l'UNEFID quand j'étais étudiant. J'étais représentant des étudiants dans divers conseils universitaires. Puis j'ai été responsable syndical du coup à l'UNEF. Donc ça a été, pour moi, ça a été un peu mon ENA à moi, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que j'ai. Bah, c'est là où je me suis le plus formé à l'action collective, à la démocratie, toutes ces choses-là. Bah, l'analyse aussi, savoir que bah, oui, si on veut rester maître de son engagement, bah, il faut, si on ne veut pas finir militant soldat, il faut comprendre les choses, il faut maîtriser l'histoire, il faut maîtriser les concepts philosophiques. Enfin, donc ça a été vraiment pour moi une très bonne formation. Et, ensuite, bon, j'ai fait un tout petit parcours au mouvement des jeunes socialistes. Après, je m'occupais de la région Poitou-Charentes. Puis après, j'ai pas eu beaucoup d'engagement parce que ben, je suis parti en école d'ingénieur, donc ça prenait pas mal de temps. Et puis après, j'ai commencé à bosser. Je faisais des heures de fou. Donc, et puis à un moment donné, bon, là, ça me manquait trop. Il manquait trop une partie de moi-même. Donc, je me suis engagé à la CIMAC parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà. Oui, parce qu'avant, j'ai médité aussi pas mal quand j'étais étudiant au manifeste pour le Front National. Donc, du coup, je connaissais toutes les organisations qui tournaient autour du droit des étrangers, de la lutte contre le racisme, etc. Et puis la CIMAD me paraissait vraiment dans la même culture, au même esprit que moi, c'est-à-dire être à la fois exigeant intellectuellement et puis combatif. Donc allier à la fois l'expertise et la combativité. Je trouvais que le piège dans le militantisme, c'était de s'enfermer dans des espèces de réflexions slogans, tu vois, où tu te satisfais de trois mots pour te. Non, ça me va pas. Je pense que le monde est complexe et il faut penser à la complexité. Et voilà. Donc la semaine était bien là-dedans. Donc je me suis engagé en 2004 à la CIMAD, où j'étais président pendant 9 ans, où là bah, j'ai développé. Développer plus l'aspect on va dire culturel hein, au sens de Gramsci. C'est-à-dire que voilà, il y avait déjà un petit groupe qui faisait des permanences d'aide. Bon, moi le truc c'était de bah, que cette pensée-là, que cette position intellectuelle-là dans la société soit diffusée. Quoi. Donc j'ai fait pas mal de. C'est là où on a commencé à faire des chroniques pour la radio, on a fait des ateliers d'argumentation contre les préjugés, on a commencé à faire des animations au café lecture, enfin, voilà, on a mis en place des choses pour que les gens nous connaissent, qu'on puisse faire passer nos analyses sur les conditions des migrants en France et en Europe. Et puis c'est là où on a commencé en 2008 plutôt. On a lancé le cercle de silence à Clermont, hein, le cercle de silence qui a débuté en 2007 à Toulouse, mais on l'a repris à Clermont en 2008. Donc voilà, on met un peu comme ça des actions pour à la fois mobiliser, à la fois donner de l'information, faire de l'éducation populaire sur ce thème-là. Et puis un jour, et toutes les familles qu'on suivait avec la LDH, avec le Secours populaire, avec le Secours catholique, vous voyez qu'ils passaient d'hôtel en hôtel, de l'hôtel CHRS à la rue, enfin bon, c'était infernal. Même si les enfants restaient dans la même école, ils étaient tout le temps en train de bouger.
Et c'était, d'ailleurs, on en avait parlé un peu à cette époque, enfin pas à cette époque, mais il y a quelques années.
Ouais.
On se persuadait, je ne sais pas si on avait raison ou pas, que c'était aussi une stratégie préfectorale de faire bouger ces familles pour justement essayer de les épuiser un peu, non?
Ouais, je pense.
T'en reviens encore
hein.
Oui, on en est encore là.
Non,
ouais.
Mais c'est sûr. Bon,
parce que je me souviens qu'on en avait parlé.
Le monde est complexe et c'est une des données du problème. C'est une des données. Voilà. En effet, la politique gouvernementale là-dedans, ou donc qui est relayée par les préfectures, c'est en effet l'accueil inconditionnel, ça c'est leur obligation, mais il y a aussi un fond idéologique dans le traitement des migrants, qui est qu'il ne faut pas que. Faut pas qu'ils se sentent confortables chez nous, quoi, en gros. Hein.
Faut pas qu'ils sentent trop chez eux.
Voilà,
en fait.
Faut pas qu'ils sentent trop chez eux et que si on pouvait les dégoûter pour qu'ils partent, ça serait bien. Ouais. Alors c'est pas assumé. Aujourd'hui, on voit que toi, le temps avance et en Europe, il y a des gens qui commencent culturellement, ils sentent qu'ils peuvent affirmer ça sur la place publique. Ouais. C'est par exemple ce qui se passe au Danemark. Ouais. Où clairement, le gouvernement dit on prend une décision de leur confisquer leurs biens pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Ouais. C'est pas pour financer machin, c'est pas vrai. Il le dit clairement. Donc quand on en est à ce stade-là, ça veut dire qu'on pense que culturellement, la population est prête à accepter ça. C'est-à-dire qu'elle partage cette idée. C'est-à-dire qu'en amont, ils ont travaillé l'opinion publique. Et voilà, je ne voudrais pas que...
Ça arrive en France.
Ouais, que ça arrive en France. Mais on sait que l'opinion publique, elle est travaillée aussi pour pouvoir arriver à ça. Donc, moi, ouais, il y a de ça. Il y a de ça, il y a aussi l'idée, un peu à mon avis farfelue, mais qu'il ne faut pas que les pauvres se complaisent dans le confort de la précarité, n'est-ce pas?
Le confort de la précarité, c'est un bel oxymore ça.
Bah oui, c'est pour souligner un peu la bêtise du truc. C'est par exemple le Haut-Rhin qui vient de dire que voilà, le RSA, quand même, il faudrait qu'il fasse un peu de bénévolat. Hein. Donc on en arrive à des choses comme ça, parce que bon, si ces messieurs dames pensent que la précarité est si confortable, moi je les invite à vivre
précaire.
Avec un RSA. Hein, c'est super intéressant. Ouais. Il faut pas hésiter, hein, faut essayer de vivre une fois chez HRS, une fois à l'hôtel, une fois à la rue, vous verrez, c'est super. Donc l'idée de base, donc c'était en 2009. On était voir le conseil départemental, on dit voilà, c'est pas normal. Enfin bon, on a fait comme d'habitude, on a revendiqué, comme on sait faire.
Du lobbying, quoi.
Ouais, du lobbying militant, mais là, voilà. Et puis quand même, bon, moi je suis aussi quand même pas mal imprégné de la culture du coopératisme, parce que mon père a monté pas mal de coopératives. Donc j'ai baigné dedans très très tôt, et donc pour moi ça a un sens que la société civile soit force de proposition, prenne en charge les besoins, enfin quoi, tout ce qu'on appelle maintenant l'empowerment, avant on appelait pas ça comme ça. Donc j'avais dit, à l'élu, bon, je la connaissais, je la tutoyais, tu sais, selon mon calcul, voilà, tu dois dépenser tant en hôtel, moi je pense qu'on peut faire... mieux pour autant ou moins, mais en tout cas on peut faire mieux, c'est sûr, quoi. Bon, alors ça a dû trotter un peu dans sa tête. Elle m'a dit ok, vas-y, réfléchis à un truc. Je me suis mis avec d'autres associations, quoi, la CIMAD, Scorcat et Scorpop. On a commencé à réfléchir à un projet, puis avec d'autres personnes physiques qui étaient sensibilisées un peu à la chose ou qui avaient des compétences que moi j'avais pas forcément, toi, soit en immobilier ou soit en...
Oui, même en budget, tout ça,
ouais,
peut-être c'est
compliqué. Ouais, en montage d'entreprise, ouais. Tout ça. Donc on a commencé à réfléchir à un projet. Et puis en août 2010, j'ai participé à l'école des jeunes créateurs de coopératives au Québec, à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Dire, oui, ok, je suis capable, c'est possible.
Merci.
Je suis capable, c'est possible. Enfin, il y avait une super ambiance. Puis dans les Québécois, ils ont une autre approche que l'entrepreneuriat social, quoi.
Ouais. C'est-à-dire?
Ouah, c'est compliqué. Mais pour nous, culturellement, les coopératives sont quand même inclus dans la culture de la lutte des classes. C'est quand même les ouvriers qui reprennent l'outil de travail. C'est l'idée de la propriété collective des moyens de production. Enfin, toi, il y a ça. Ouais. Vraiment, c'est la vérité de Carmo. C'est, voilà, ça. Et au Québec, la culture est tout à fait différente. C'est-à-dire que ils ont monté des coopératives parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est-à-dire que l'argent était détenu par les Anglais. les organisations anglaises et ils étaient, les Français ou les francophones étaient complètement laissés de côté. Donc c'est Desjardins qui a commencé à mettre des banques mutualistes dans chaque village, tenues par les curés en gros, enfin c'était soutenu par l'Église catholique. Et du coup ils ont, c'est plus une culture communautaire, hein, de dire voilà on a. Du coup c'était pas de la lutte de classe mais c'était de la lutte toujours des opprimés contre des oppresseurs. C'est pas une question de classe, c'est plutôt une question de communauté. Et du coup maintenant au Québec il y a plus de coopératives que d'habitants quoi, hein. Ils sont tous membres de plusieurs coopératives mais ils ne savent pas forcément quoi. Donc moi ça m'a beaucoup amusé parce qu'il avait même fait des coopératives de pompes funèbres.
C'est vrai.
Même les morts viennent voter. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est les Américains qui leur vendaient des cercueils à prix d'or. Et donc, eux, maintenant qu'ils savaient, voilà, ils ont cette culture-là coopérative, on dit bah, pour qu'on ait des cercueils
moins chers
ou au prix raisonnable, il faut se mettre en coopérative. Ils font des coopératives de tout, même des brasseries, de tout. Même l'université de Sherbrooke, c'est une université coopérative.
D'accord.
Donc ça m'avait vraiment boosté, puis pas mal de. Ça m'a donné de la technique aussi, tu vois, sur le monter un projet, monter un budget, etc. De se poser les questions de la gouvernance démocratique, tout ça. Enfin, c'était super intense. Mon équipe a fini lauréat d'ailleurs. Je m'y attendais pas, c'était vraiment chouette. Donc voilà, après donc je ressors de ça, donc du coup j'ai des billes pour finaliser le projet, on finit le projet, on le présente, donc Alternative Hôtel. Donc l'idée de base est assez simple, hein, c'est plutôt que de mettre les gens à l'hôtel, on vit à la personne publique, nous on loue des appartements et on place les gens dans ces appartements. C'est la sauce qui est qui a le bail, donc c'est beaucoup plus souple pour la qualité. Et les gens qui sont hébergés, c'est pas eux qui sont détenteurs du bail, donc si leur situation s'améliore, ils peuvent sortir facilement du bail pour reprendre un logement à leur
Ça les pose dans un endroit.
L'idée de base, c'était stabiliser le logement. Donc le logement d'abord. Alors, depuis peu, je me suis aperçu qu'en fait, il y a tout un mouvement comme ça aux États-Unis, je savais pas, qui s'appelle Housing First. Donc, d'abord, mettre dans une maison, d'abord héberger, et ensuite, tout le reste peut venir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on me pensait bagarre. D'abord, stabiliser les choses, parce que bon, on s'est basé sur la pyramide de Maslow. Hein. D'abord, répondre aux besoins fondamentaux pour ensuite monter en grade comme ça sur les besoins sociaux, les besoins intellectuels, spirituels, etc. Donc on pouvait pas demander aux gens de s'investir dans une démarche juridique compliquée, parce que le droit des étrangers c'est quand même un vrai labyrinthe, hein, c'est déjà qui est bourré de pièges. Donc si tu fais un faux pas, c'est mort. On a dit, si on veut que les gens s'investissent là-dedans et qu'ils trouvent des solutions plutôt qu'ils soient bloqués, parce que c'était ça la réalité, c'est qu'ils sont bloqués dans l'urgence.
Bien sûr.
Donc t'as des gens voilà, qui tombent dans le système de l'urgence, qu'on ne sorte pas, puis d'autres arrivent, et puis l'urgence est complètement bloquée. C'est ce qui s'est passé en septembre 2013, où tout le monde dehors, hop, on a organisé le mouvement pour que.
Faut peut-être que tu expliques un peu ce qui s'est passé en 2013.
Ouais. On y reviendra.
Parce que moi, je connais bien l'histoire.
On y reviendra. Donc l'idée, on revient donc en 2010, on présente le truc, on a un accord politique là-dessus. Après, les choses vont pas aussi vite que ça.
Parce que alors attends, tu as un accord politique, à ton avis, qu'est-ce qui pousse les politiques à accepter ton projet d'un côté, j'ai envie d'être novateur.
Il y a ça, puis de se dire que après c'est la sensibilité aussi.
Et l'argent surtout aussi peut-être.
Il y a l'argent.
C'est plus rentable
tout
en fait.
Les choses sont complexes quoi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et oui, il faut trouver une solution pour que ça coûte moins cher. Là, l'idée c'était quand même de coûter moins cher que l'hôtel. À l'époque, les estimations qu'on avait étaient 25 euros par nuit et par personne.
À l'hôtel normal.
À l'hôtel normal. Il y avait assez peu de stats, hein. Il y avait vraiment très peu de stats, mais on sait qu'on avait pu recouper, c'était 25 euros. Ouais. Maintenant, on a des données plus précises, on sait que c'est plutôt autour de 17. Mais bon, c'est toi sur tout le territoire national, donc à Paris, c'est pas pareil que, qu'à Saint-Étienne.
Ou à Clermont.
Ou Clermont. Donc,
Et vous, c'était votre proposition, elle chiffrait beaucoup plus bas, enfin...
Ouais, on est autour de 12 euros, ouais.
Ouais. Donc ça faisait un gain par nuit et par personne de 13 euros, on va dire,
ouais.
À ce moment-là. Ouais. Donc multiplié par combien, en fait, il y avait combien de gens hébergés à l'hôtel à ce moment-là?
À ce moment-là, il y en avait pas mal, hein. Il y en avait pas loin de 300, je crois, hein, de personnes.
Ouais.
Donc ça faisait quand même pas mal. Hein.
Ouais.
Et pourquoi ils ont choisi pour la question d'argent, mais aussi parce que, l'approche du projet a plu, c'est-à-dire de dire, oui, en effet, c'est d'abord stabiliser les gens, régler les problèmes fondamentaux pour ensuite qu'ils puissent s'inscrire dans une démarche juridique et dans une démarche d'insertion. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire...
Bien sûr,
ouais. De mettre de l'énergie dans quelque chose qui est à mille lieues de ses premières préoccupations.
Et c'est pas où il dort demain.
Où est-ce que je mets mes enfants à dormir? Qu'est-ce que je leur donne à manger? C'est ça, tu vois, voilà, quand t'es parent, quand t'es angoissé de savoir où est-ce que tu vas dormir, tu penses pas, merde, il me faut le papier, machin, il me faut que je fasse, que j'appelle la voiture. Voilà, c'est juste pas dans tes logiques. Donc, et voilà. C'est une idée.
Tu peux manger en même temps.
Ouais,
ça va être froid.
Je suis pas un expert de la chose, mais je me suis pas mal inspiré. La philosophie du CAIR, je ne sais pas si tu connais.
Non, vas-y, explique-moi.
Mais en gros, bon, c'est tout court, hein, c'est un peu de la sollicitude, c'est-à-dire d'être bienveillant dans le travail social ou dans les relations citoyennes, quoi, tout simplement de ne pas être dans un rapport technique froid ou de,
ouais. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'humain, quoi.
Voilà, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut comprendre la situation de l'autre, essayer de comprendre ses besoins, etc. C'est un peu dans les mêmes logiques que la communication non violente, des choses comme ça. Mmh. Et dans l'idée du CAIR, il y a aussi l'idée de prendre soin des gens pour que les gens autonomie, ça apprend de ce qu'on appelle l'empowerment même. Et non pas les maintenir dans une précarité, comme ça tu as toujours des clients, enfin, c'est ça le danger. Il ne faut pas tomber dans le piège des organisations
qui laissent les gens dans la précarité et qui du coup se complaisent dans la et les gens finissent par se complaire.
Pour moi, une organisation, il faut qu'elle ait comme but de ne plus exister.
Ouais.
C'est différent d'une entreprise. L'entreprise, son but, c'est de grossir.
Ouais.
Nous, on devrait avoir comme but de ne plus exister.
Le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux dans notre
entreprise. Que tout le monde soit OK avec pas de problème matériel, pas de problème psychologique.
Il n'y a plus de psy dans votre pays.
Wow. Pas de problèmes sociaux, voilà. Non.
Ouais.
Même si c'est une utopie, on sait.
Ouais.
Une cible.
Et donc?
Donc, je pense que c'est ça qui a plu. C'est aussi l'originalité, l'expérience aussi de mêler les deux approches, entre l'approche professionnelle et l'approche militante. Qui était un peu la culture de la CIMAC.
Ouais.
On mouille la chemise, on fait des rapports un peu béton, tu vois, qu'on ne dit pas n'importe quoi, mais en même temps, on va dans les centres de rétention, on gère des cadavres.
Oui, bien sûr.
C'est pas la position confortable d'être uniquement.
C'est pas du militantisme que sur le terrain.
Ouais. Aussi les mains dans le tambour. Quoi. Alors, c'est pas une. Ce que tu dis souvent, c'est un peu vulgairement. Avoir le cul entre deux chaises, c'est pas confortable.
Ouais.
Mais en même temps, ça te permet d'innover, de créer, de sortir des sentiers battus. Voilà. Je pense qu'on innove toujours entre deux mondes, en fait, dans les failles. Mais dans les systèmes déjà qui fonctionnent super bien, bon.
Oui.
Tu innoves à la marge, parce que tu ne fais que améliorer ou optimiser des techniques déjà connues. Mm. Alors qu'entre deux mondes, ben,
t'expérimentes,
tu t'expérimentes, tu as diffusé la technique et c'est là où tu en crées d'autres.
Ouais. Enfin, pour en créer, il faut en avoir.
Pour en créer, il faut en avoir.
Faut avoir expérimenté un paquet de fois et avoir échoué aussi.
Oui, oui, oui. Mm. Ben, nous, on a présenté le projet en 2010. Il a démarré le 1er janvier 2013.
Ouais.
Donc pendant 2 ans, on ne sait pas si ça allait commencer, on ne savait pas, parce que là, le technicien qui nous suivait est parti, donc il a fallu reprendre contact avec les nouveaux techniciens, les convaincre, etc. Il y a eu des élections,
conseil
départemental, donc on a des nouveaux élus, des nouveaux VP. Donc pareil, il a fallu reprendre contact. Construire la confiance, etc. Mm. Mais bon, ça c'était un temps que je ne pensais pas si long que ça. Je savais que le temps politique était un temps long.
Pas ce qu'on.
Mais on est toujours pressé.
Ouais. Surtout quand on croit en son projet, etc. Ouais. Quoi.
Mais bon, ça.
Alors comment ça
s'est sorti.
Et donc c'est sorti. Alors comment ça se passe en fait. C'est-à-dire.
Il y a une commission.
Vous avez sollicité des hôtels qui. Mm. Non.
Comment ça marche? Déjà, on a une convention avec le conseil départemental. Non, parce que il faut que le projet, puisqu'il puisse exister, soit compatible avec le système ou la culture de la collectivité territoriale, avec les politiques publiques, et puis avec le système et la culture des organisations qui portent le projet. Donc, une culture plutôt à. Il y a des organisations militantes et des organisations humanitaires. Bon. Il faut que ces deux mondes se rencontrent et que ça se formalise. Donc ça s'est formalisé dans une convention,
ouais.
Qui cadre l'action, l'intervention. Donc qui cadre déjà le périmètre, c'est les familles déboutées du droit d'asile avec enfants mineurs, qui doit être dans une démarche de régularisation du séjour, dans une démarche administrative juridique. Et dans une démarche d'insertion socio-professionnelle.
Alors attends, je te stoppe tout de suite.
Ouais.
Les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est que le droit d'asile,
ouais.
D'être dégoûté du droit d'asile. Et ouais.
Alors, dégoûté du droit d'asile, c'est la situation dans laquelle vous êtes quand vous avez fait une demande d'asile, qu'elle a été refusée, que vous avez fait un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile et que vous avez été.
Refusé
encore ou débouté. Mmh. Donc débouté, ça veut dire que vous avez.
Et le droit d'asile te permet quoi? Si tu as le droit d'asile.
Quand on a le droit d'asile, ben on est déjà régulier sur un territoire.
On est régularisé sur son territoire.
Et on a la protection politique de la France.
Donc on a les droits.
Et après, tu as les droits communs. Hein, et voilà, tu as le droit au travail, au RSA, tu as le droit comme n'importe quelle personne qui est. Non, tu as même plus de droits que n'importe quelle. Que n'importe un étranger qui serait régularisé pour un autre titre, par exemple, il peut pas avoir tout de suite droit au RSA, par exemple. Il faut qu'il ait, je sais plus, 3 ou 5 ans de présence sur le territoire, quelque chose comme ça, de régularisation. Mmh. Alors qu'un demandeur d'asile qui est réfugié, donc qui a le statut de réfugié, lui, il a le droit au RSA tout de suite. Mmh. Ouais, c'est là.
Est-ce qui permet de décider si nous ou non on est réfugié de droit d'asile, etc. C'est le pays d'où tu viens, enfin en fonction de tu vas avoir l'asile politique,
guerre, etc. C'est l'OFPRA qui détermine ça, donc c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui à partir de la Convention de Genève instruit et demande. Et la France. Comme d'autres pays européens, on a mis en place depuis quelques années une procédure qui a été appelée prioritaire à un moment, qui est maintenant appelée accélérée. Alors, c'est pas une procédure, malgré la sémantique utilisée, c'est pas du tout une procédure de privilégié. C'est une procédure qui est dégradée par rapport à la procédure normale. Elle se passe plus vite, les gens ont moins de droits, ils peuvent ne pas avoir accès à un entretien, donc pas défendre de vive voix leur carte. Ils sont pas à égalité de traitement avec les autres. Mmh. Là, ça, du point de vue de l'égalité républicaine et de l'accès, l'égal accès aux services publics, moi, ça me pose un problème.
Ouais.
Alors, pourquoi les gens peuvent être dans cette procédure-là ? Parce que il y a un gros doute sur la
véracité,
le bien fondé de la demande. Mais ça, comment peut-on le savoir ? Tant qu'on n'inscrit pas la demande, tu vois, c'est quand même un préjugé.
Ouais, c'est clair.
Et après, à un moment donné, voilà. Je ne sais pas si la maîtresse a écrit sur leur tête. Ou...
Il a une tête de mytho, ce mec.
Il a une tête de mytho.
Ouais, c'est ça.
Dans un système d'état de droit, ça ne se fait pas, ça. C'est pas le guichetier de la préfecture qui est capable.
C'est la présomption d'innocence, quelque part, tu vois, qui est remise en cause.
Exactement. Exactement. Bon, là, comme c'est des étrangers, voilà. Et un autre point que moi, je trouve scandaleux, plusieurs titres, c'est sur... l'origine du pays d'origine de la personne. Hein. Oui. Si on estime qu'il vient d'un pays sûr, donc on a fait une liste de pays sûrs, s'il vient d'un de ces pays-là, hop, procédure dégradée, procédure accélérée. On voit ça en 15 jours, papa. Alors moi je trouve ça scandaleux parce que déjà, ça veut dire que tu traites le cas d'un individu selon la situation d'un pays. Mais on voit bien avec Assange, avec Snowden, que toi, ils viennent d'un pays sûr, bah, voilà, c'est la démocratie, là, là. Mais n'empêche qu'ils sont inquiétés par leur pays. Donc, ce qu'il faut voir, c'est la situation singulière, et non pas un traitement en masse. Bon, bah, tous les gens qui seront blonds, ils auront le droit d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Et puis après, donc déjà d'un point de vue du traitement, c'est-à-dire qu'on traite de l'asile, il faut avoir une démarche singulière. On va regarder la situation singulière. Tout traitement de masse est forcément injuste, pour ce cas-là précis.
Forcément.
Et ensuite, quand on regarde les pays qu'il y a dans la liste, ça va. Enfin, il y a l'Inde qui a toujours un conflit au Cachemire. Enfin, moi, je défie les Français d'aller faire un petit tour de tourisme au Cachemire. Hein, je ne sais même pas s'ils peuvent y aller. Il y a toujours un conflit, il y a le Sénégal, alors qu'il y a toujours un conflit en Casamance, enfin bon, il y a toujours, il y a comme ça, un peu. Moi j'avais demandé, j'avais écrit au président du CA, du conseil d'administration de l'OFPRA, pour demander le retrait de l'Ukraine, parce que c'était au début du conflit. Bon, j'étais pas le seul, mais et du coup, l'Ukraine a été enlevée, mais a été enlevée super tard, quand normalement les troupes russes étaient rentrées dans le truc, alors que ça faisait un petit moment déjà qu'il y avait la guerre civile. Et qu'il y avait des régions qui étaient où l'État ne pouvait plus assurer la sécurité des citoyens, comme le Mali par exemple. Le Mali, il a été retiré de la liste des pays sûrs, et pour ça il a fallu que c'était le lendemain de l'intervention française au Mali. Si la France intervient, c'est bien.
Trop tard,
c'est trop tard. C'est bien qu'il y a un problème si la France intervient. Donc il fallait intervenir bien avant. Quand même. Donc pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont été floués en étant orientés vers cette procédure dégradée, hein, alors que leur pays était complètement déstabilisé. Donc il y a une année, j'ai fait dans les chroniques, là, j'ai fait une chronique par pays, tous les pays un par un, puis j'étais regardé les rapports d'Amnesty International, les rapports de Human Rights Watch, les rapports de Reporters sans frontières, enfin, toutes les organes un peu sérieuses qui vont sur le terrain, qui sont capables de donner les chiffres du fait, comme ça. Il n'y en a pas un qui était exempt de...
Bien sûr.
De critique, tu vois.
Bien sûr.
Donc on est vraiment dans une culture de la suspicion envers l'étranger qui demande l'asile. Quoi. Voilà. On a une xénophobie rampante, culturelle.
Alors que j'imagine que c'est jamais pour le plaisir que tu quittes ton pays pour, tu vois, pour demander l'asile dans un autre pays.
Juste de se mettre en situation. Qu'est-ce qui nous, dans notre situation personnelle, qu'est-ce qui ferait qu'on quitterait la ville ou le village où on a créé nos relations, notre famille, notre maison, ça soit grave.
Bah oui,
tu fais pas juste ça parce que c'est fun, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a des super dialogues en France. Ouais. C'est pas mal, quoi. Ben, les gens, ils savent même pas, déjà.
Oui, ils savent pas forcément de quoi ils ont droit, exactement, quoi.
Et puis, de toute façon, on le voit, les gens qui migrent, c'est toujours les upper class ou bah, les gens qui ont du capital, soit ça. Intellectuel, soit financier, soit social. Enfin, là, on le voit actuellement, là, ceux qui quittent la Syrie tout de suite, là,
oui.
Là ce sont les classes populaires.
Oui, mais les premiers, mais effectivement.
Là, ah. La classe intellectuelle,
bah, tu avais les moyens.
Donc quand on en est à ce que ce soit les classes populaires qui quittent là, ouais. C'est vraiment le bazar.
Ouais.
Donc on a une espèce de culture de la suspicion.
Donc c'est ça, le voilà, donc pour en revenir à notre temps, Alternative Hôtel.
Voilà,
va gérer ces gens qui donc n'ont pas le droit.
Les familles, hein, parce que c'est dans le cadre de la protection de l'enfance.
Ouais.
Où on estime collectivement qu'un enfant à la rue est un enfant en danger.
Ouais.
Donc.
De toute façon, il y a des lois qui interdisent, des lois internationales qui interdisent normalement les droits de l'enfant.
Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant.
C'est assez clair quand même.
Ou alors, attends, de mémoire, ça va être l'article 3 qui dit que toute décision de quelque organisme que ce soit, public ou privé, doit répondre à l'intérêt suprême de l'enfant. Ou supérieur. Et ça veut dire que, voilà, on ne sépare pas un enfant de sa famille, on ne le laisse pas dehors, on ne le laisse pas trouver la dalle.
On pourrait porter plainte un paquet de fois quand même, hein, contre même l'État français, quoi.
Parce que dans le Puy-de-Dôme, on a la chance qu'on a un département qui est militant sur ce sujet-là. C'est le seul à s'engager autant pour les enfants.
D'accord.
Tous les autres, si l'enfant a plus de 3 ans, il reste dehors. Non. Nous, on a. Voilà, parce que c'est le créneau sur lequel. C'est le public pour lequel le conseil départemental peut légitimement s'engager.
Mmh.
Et après, bien sûr, qu'il y ait dispositif social, ni la contrepartie, mais un encadrement, parce que c'est l'argent public, c'est pas n'importe quoi, sinon c'est des privilèges, quoi.
Ouais.
Donc il faut que les gens soient dans une démarche de régularisation et dans une démarche d'insertion socio-professionnelle. Donc c'est un cadre relatif.
Mais quand tu as été, été débouté du droit d'asile, tu as quand même encore des recours pour pouvoir être régularisé.
Bah non, après c'est sur autre chose. Soit on va réouvrir un dossier parce que les gens, ils n'ont pas été au bout de leur dossier, tu vois. Donc on trouve d'autres éléments, mais il faut passer du temps pour ça.
Ouais.
On trouve d'autres éléments et on arrive à réouvrir un dossier. Ou alors on pose des demandes de régularisation au titre de la circulaire Valls.
Mmh.
Ou au titre de la santé, ou au titre du travail. Voilà.
Mais non, quand ils arrivent à Alternative Hôtel, ils sont en irrégularité. Donc ils peuvent être la PAF peut débarquer quand ils veulent pour les embarquer. Non, ils n'ont pas une protection.
Ben, la PAF elle peut venir si un arrêté préfectoral est reconnu à la frontière.
Ce qui n'est pas forcément le cas quand il est débouté du droit d'asile.
Ben non, encore heureux. Politiquement, il y en a qui voudraient que à partir du moment, où la personne.
Je vais taper du poing sur la table. Il fallait que ça soit dans le micro.
À partir du moment. Il y en a qui voudraient ça, surtout à droite, mais un peu aussi à gauche. Ils voudraient qu'à partir du moment où la personne a été déboutée du droit d'asile, elle ait obligatoirement une obligation à quitter le territoire français, une OQTF.
Ouais.
Mais moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si. Tu demandais.
tu demandes la
carte. Demander le RSA.
Voilà, la carte.
Et parce que tu l'as pas eu, ça va rendre dur aussi les allocs. C'est pas pareil. Enfin, voilà, on fait une demande, on est bouté de cette demande, voilà, c'est tout. Ça ne va pas affecter le reste, parce que tu peux très bien faire, tu peux très bien être dans un cas où bah, tu as tissé des liens, où tu as de la famille, où tu es malade, où t'as, voilà, tu as plein d'autres choix, quoi. Il faut considérer la situation singulière de chaque personne, quoi. Plutôt que des traitements en masse.
Oui, donc on te refuse le droit d'asile, mais ça ne veut pas dire qu'on te refuse une intégration sur le territoire. Quoi.
Ça veut dire juste qu'on t'a, que tu n'es pas éligible considéré, à la Convention de Genève. C'est juste ça. Donc, voilà, il ne faut pas confondre, il y a un combat politique. Un peu sur la défensive, mais voilà, ça fait 15 ans qu'on est sur la défensive.
C'est pour ça que je te posais la question.
Ouais.
Les choses sont à faire. Donc,
donc nous, bon, bah, toutes les familles sont dégoûtées, mais elles n'ont pas toutes un OQTF, encore moins un APRF.
Mmh.
Même pas pour l'APRF.
C'est quoi l'APRF?
Ce que je disais tout à l'heure, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Bon, là, par contre, c'est...
T'as plus le choix, là.
Il y a un APRF, y a un APRF sur ta tête, un contrôle de police, tout de suite,
t'es foutu, quoi.
T'es expulsé tout de suite. Alors, dans d'autres cas, tu vas d'abord... Tu as d'abord en centre de rétention, et puis tu passes devant deux juges, le juge administratif, le juge des libertés. Et il faut que ton pays, le pays, ton pays d'origine accepte de te reprendre quand même. Hein, on n'explique pas les choses comme ça.
Ouais.
Voilà. Bon. Alors, et en plus on s'aperçoit, après c'était un débat aussi. Mmh. J'avais fait un papier là-dessus. Et j'étais content, c'est même paru à Témoignage Chrétien. Hein. Il y avait la Cour des comptes qui avait dit « Oui, c'est une honte. Les taux d'exécution des OQTF, donc en gros les expulsions. » J'avais un gros truc dans la bouche. Les expulsions, il n'y en a pas assez pour les députés de droit d'asile. Tu vois, le taux d'exécution des OQTF était trop bas pour les... Moi, j'ai fait un papier, quoi. Non, mais c'est juste normal. Les gens, ils viennent de pays déstabilisés. Il n'y a peut-être plus de service public, il n'y a peut-être plus d'autorité politique. D'ailleurs, pour expulser les gens, il faut qu'ils aient un état civil. Il faut que le pays vers lequel tu veux les expulser soit d'accord. Quand les mecs, tu peux pas retracer leur état civil avec le pays dans une merde noire, même si toi, personnellement, tu n'es pas inquiété. Et encore, c'est un paquet pilotracté. On a estimé que tu n'avais pas le droit de. Tu méritais pas le statut de réfugié, mais tu viens quand même, je sais pas, d'Ukraine et de. Je sais pas, d'autres pays. De Syrie. Ouais. On a débouté le droit d'asile de Syrie, on l'envoie où? Ouais. Mais on l'envoie où?
Il y en a des déboutés
ouais,
droit
sûr,
de...
A, ouais.
de Syrie.
Oui, il y en a, mais bien sûr.
Mais c'est quoi alors? Mais pour quelle raison tu peux débouter du droit d'asile à un réfugié?
Bah, dans ces cas-là, tu peux lui donner autre chose, tu peux lui donner la protection subsidiaire.
Oui, mais sous quel argument tu peux le refuser?
Ouais.
C'est incroyable.
Non, c'est incroyable. Il y en a.
D'accord.
Parce que. Bon, après, bon, c'est un autre sujet, mais bon.
Ouais.
Voilà, c'est pour dire.
Il y a quand même quelques trucs bizarres, quoi.
Ouais. Et donc, oui, alors donc, beaucoup de nos familles, elles n'ont pas toutes un OQTF, il n'y en a aucune pour un APRF, et que, justement, elles sont déboutées du droit d'asile, elles sont pas, c'est pas si simple que ça. Et du coup, s'ils restent là, qu'on leur donne pas les moyens de régulariser leur situation, ils restent là, dans la précarité, dans l'urgence.
Dans l'illégalité, du
et
coup.
Et moi, je trouve que même d'un point de vue, tu vois, même si j'enlevais mes casquettes de militant,
oui, d'un point de vue
humain, que je prenne une casquette de préfet.
Hein. Ouais. Ouais,
je suis quand même.
Ou j'imagine bien la même. Tu me demandes.
Il faut avoir beaucoup d'imagination.
Ouais, tu me demandes beaucoup d'imagination.
Mais il faut arriver à faire ce travail-là parce qu'il faut toujours comprendre l'autre. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, j'ai
rien avec
la préfecture. Si je lui parle que de mon point de vue, il ne va pas s'entendre. Alors que si je lui cause de ses besoins à lui, ça va matcher. Donc, lui qui était.
Si toi,
lui, il est détenteur de l'ordre social. À un moment donné, quand tu as des situations sociales qui sont inextricables, et tu laisses comme ça dans la précarité, forcément, tu vas favoriser le commerce illégal, tu vas parce que les gens viennent, il faut qu'ils bougent, quoi. Donc si tu n'as pas de moyens légaux, bah, tu prends des moyens illégaux. Enfin, dire, à un moment donné, il ne faut pas juste crever parce que sinon c'est illégal. Ça ne va pas, non. À un moment donné, la nécessité est force de mort. Quoi. Donc quand tu causes comme ça, ça cause un peu différemment. Enfin, Donc tu peux pas, pas laisser des gens dans des situations où de toute façon ils n'iront pas, et si tu les si tu régularises pas, voilà, ça crée moi ce que j'appelle un désordre social.
Ouais.
Donc l'idée du l'idée d'alternative hôtel, c'est justement de montrer qu'on peut construire des solutions. Construire des solutions qui sont pas excessives, qui sont moins chères que
ce qui était proposé,
les solutions qu'on a en hébergement d'urgence, c'est-à-dire l'hôtel, hein, quand tous les CHRS sont remplis. Hein. Et puis de se poser, voilà, de reconstruire les gens, puis de se pencher vraiment sur leur situation juridique et de trouver des solutions. Quoi.
Et alors comment ça se passe donc du coup? Il y a des hôtels estampillés alternatives aux
hôtels? Non, on est des appartements. On loue des appartements.
Mais comment vous les avez récupérés, ces appartements?
Alors, au début, il y avait le Secours catholique et le Secours populaire qui avaient leurs propres appartements et qui louaient, enfin qui étaient sur leur propre budget à eux. Donc à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Quoi. Leur trésorier, ils étaient bons.
C'est clair.
Donc le deal, ça a été aussi de récupérer ces appartements-là. Et que ça soit enfin la collectivité reconnaisse que les organismes humanitaires font leur job en quelque part. Tu vois. Et que voilà, c'est bien gentil, mais on ne peut pas confier. Enfin, comment dire, les dispositifs sociaux
ne
peuvent pas dépendre uniquement de l'humanitaire ou de la.
De l'associatif.
De l'associatif, ou comment on dit ça, le charity business, toi, tu vois, à l'américaine, quoi. On n'est pas la société américaine. On croit quand même un minimum à la puissance publique, quoi. Qui est quand même l'expression normalement de la volonté populaire. Bon. Et de l'intérêt général. Pas pareil. Mais donc on a commencé avec. Les appartes qui avaient déjà escortalé Escort Pop, et puis après on est allé en chercher sur le marché privé. Donc là on a, donc du coup on a en gros un gros tiers qui vient du parc social, un gros tiers qui vient du marché privé, et un petit tiers qui vient de, on va dire, propriétaires solidaires ou militants, donc des militants qui ont des apparts. Ou alors on bosse aussi avec Habitat Humanisme, on bosse aussi avec l'établissement public foncier qui gère le patrimoine public des collectivités territoriales. Et du coup, si tu veux, ça donne une unité sociale à du patrimoine qui dort. Donc on essaie un peu de développer toutes les petites idées qu'on pourrait avoir. Et voilà. Et en fait, ce que je ne savais pas, mais après c'est des bonnes petites histoires comme ça quand tu montes des projets, c'est que des trucs que tu t'y attends pas. Pour moi, ils que je suis protestant, et donc quand on a commencé à chercher des apparts, j'ai parlé à la communauté protestante qui m'en avait. Et j'ai eu un coup de fil de Bonnet. On me dit, ouais, combien t'en veux, tout ça. Moi, je ne le connaissais pas, toi. Bah, je sais pas, vous en avez combien? Et nous, autant que tu veux. Je dis, mais vous êtes qui? Bah, l'agence immobilière Bonnet, c'est la plus grosse carbone. Et tu vois, le truc de fou. Alors après, j'ai regardé en ville, oui, en effet, il y a des panneaux partout, quoi. Mais je n'avais jamais fait gaffe. Donc des fois, tu as des surprises comme ça, des gens qui sont prêts, qui sont prêts à t'aider, alors que ce n'est pas du tout leur champ habituel. Quoi. Donc les apparts qui viennent de différentes sources. Donc, on loue des appartements.
Donc c'est le conseil départemental qui les loue finalement.
C'est l'association.
Donc c'est l'association. Vous avez dû monter une association pour.
Ouais, l'association, c'est pas l'atelier logement solidaire. Alors on l'a construit pour être un. Aujourd'hui on appellerait ça un Fab Lab social. Mais à l'époque on l'appelait une matrice à projet. En gros, c'est réunir des gens, essayer de réfléchir à des projets pour répondre à des besoins sociaux tournés sur le logement. Pour augmenter les capacités actuelles. Et
Et vous avez des salariés dans cette association?
Ouais. Il y a une responsable de projet qui est depuis le début avec moi. On était appelés deux à rédiger le truc, tu vois, avec les assos. On leur disait, on a monté la structure, l'idée, les principes, etc. Puis nous, on a gratté. Il y a deux éduques qui font le suivi social des familles, qui sont les référents sociaux. Voilà, comme ça, ça décharge un peu les services sociaux du conseil départemental. On a des gens qui sont un peu spécialisés, qui connaissent bien les publics des étrangers.
Est-ce que le droit des étrangers est particulier?
Ouais, c'est particulier quand même. Et puis il y a un technicien qui s'occupe de la maintenance ou l'entretien des appartements.
D'accord.
Voilà. Donc il y a quatre salariés dans la société. Donc on fait il y a l'hébergement en appartement. Donc, ça c'est les trois piliers sur lesquels on a fondé le projet. Le premier pilier c'est l'hébergement en appartement. Le deuxième pilier c'est le suivi social en mode proximité. Et le troisième pilier, ce qu'on appelle l'accompagnement solidaire. Donc ça en gros c'est ce qui va donner l'essence militante au projet. C'est un espace où on peut innover. Quoi. Donc là, l'idée, c'est de s'intéresser à tous les besoins des personnes hébergées, des familles hébergées. Donc ça va être l'accès à la culture, l'accès au sport, participer à des actions collectives, valoriser ses savoir-faire, etc. Donc, par exemple, on a monté un jardin partagé, on a un partenariat avec Culture du Cœur, pour l'accès à la culture, avec la FSGD pour l'accès au sport. On a une personne qui a fait pas mal de stages à la PIMA, dans les familles, il y a l'ingénieur agronome, c'est lui qui a un peu drivé, qui a piloté le jardin partagé. On essaie comme ça d'imaginer quelle coopération on pourrait avoir avec un tel. Parce qu'on ne rentre pas tout, et puis moi je crois à l'intelligence collective, je crois à la densité du tissu social. Donc, c'est pas la peine de faire la même chose que le voisin si c'est déjà bien fait.
C'est terminé,
presque. Donc voilà, on a le projet à trois piliers. Et en fait, il y a une commission ad hoc, une commission qui s'appelle Alternative Hotel, qui regroupe les services sociaux du conseil départemental et puis l'équipe sociale du projet. Et là, donc, il y a le suivi des familles qui est fait, parce qu'avec chaque famille, on fait un projet d'accompagnement. Et puis, quand il y a des familles qui sortent, le conseil départemental réceptionne
les demandes. Et ils peuvent rester le nombre de mois et d'années qu'ils veulent.
Ouais, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de limite.
Non.
S'il y a besoin de 10 ans, il y aura besoin de 10 ans.
Ouais. Alors, je pense forcément ça pose des questions bien avant, mais c'était une des exigences qu'on avait. Tu ne peux pas dire, ça n'a pas de sens de jeter quelqu'un au bout d'une durée. Ouais. Ça a du sens s'il n'est plus dans le cadre. Ouais. C'est-à-dire s'il est. S'il n'y a plus d'enfant, ça c'est arrivé, il y a une famille qui est sortie parce qu'il n'y a plus d'enfant mineur. S'il sort du cadre parce que il est régularisé.
Ça arrive aussi.
C'est chouette. Ouais, on a eu 5. 5 sorties comme ça. On a eu des sorties aussi parce que il y a eu des problèmes sociaux qui font qu'ils ont été réorientés vers d'autres services sociaux.
D'accord.
Et des réorientations. Et après, il peut y avoir des sorties parce que les gens. Ça ne sert dans aucune démarche socio-éducative, donc c'est un peu compliqué. Tu vois, après, il se passe des choses, on ne sait pas quoi.
Ouais.
Ça peut arriver.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, en adéquation avec le projet. Enfin, ils
ne
s'en servent pas dans le projet finalement.
Ouais. Parce que le projet, il n'est pas inconditionnel. Quoi. Voilà,
il faut quand même un minimum.
Ouais. Donc ça serait le 115.
Ouais.
115, c'est inconditionnel. Tu regardes.
Ouais. On souhaitait un dessert. Hein. Il flottante, moelleux au chocolat, du chocolat, du frais rouge, fromage blanc, pétrole au chocolat, gaufre de Bruxelles au chocolat au sucre.
Vous avez parlé de gaufre déjà ?
Gaufre de Bruxelles, ouais.
Ah, moi je veux ça.
Au chocolat ou
au
sucre ?
Ah, ouais, au chocolat.
Au chocolat.
Merci.
Donc.
Oui, donc ça peut arriver, oui, effectivement.
Ouais, ouais.
Eux ne jouent pas le jeu non plus. Donc,
oui, oui, voilà. Pardon. On a basé, en fait, le projet est basé sur la coopération. Donc,
bien sûr.
La coopération, c'est l'égalité déjà. Le volontariat, l'adhésion volontaire. Et c'est la transparence du comportement, la visibilité des autres. Nous, on explique là, tout ce qu'on fait, quelles conséquences ça peut avoir, pourquoi. Et après, les gens, tu respectes leur libre arbitre. Quoi.
Ouais.
Ils ont joué le jeu, ben, ça marche. Ils ont joué le jeu, on arrête.
Ouais, ouais, carrément. Chacun son destin. Quoi.
Ouais.
Et donc depuis 2013, vous avez commencé à héberger. Et vous en avez hébergé combien de familles depuis 2013?
Combien de familles? Eh bien, ça fait 28. 28 familles.
Donc 5, combien qui sont
5 sorties
pour régularité.
Pour
régularisation, pardon.
Une famille qui a été réorientée. Et une famille qui est sortie parce que l'enfant, il y avait un enfant
Il était majeur.
Donc là, c'est un peu d'attendre 6 mois machin, pour voir si
la réalisation
tombe, mais à un moment donné, c'est plus possible.
Ah oui. Donc ça fait 20, il en reste 21 là, c'est ça?
Là, il en reste 21. Ouais.
D'accord. Et donc les projets du projet maintenant?
Ah, les projets du projet.
Ouais.
Et bien maintenant que.
Parce que maintenant vous êtes bien en place.
Ouais,
quoi.
On est bien en place.
Donc c'est unique à Clermont, il faut quand même qu'on
vienne.
C'est un truc.
C'est unique à Clermont, ça ne s'est pas fait ailleurs. Il y a eu une tentative en région parisienne qui a avorté. Il y a un dispositif qui nous a copié, entre guillemets.
Dupliqué.
Dupliqué, voilà, c'était volontaire, ils sont venus nous voir, on a fini les papiers, puis c'est des copains, c'est la CIMAT à Béziers, donc ils ont fait un truc similaire à Béziers, pour moins de, pas exactement le même public, et puis pour moins de familles, et puis pas avec le même donneur d'ordre, ils travaillent avec la préfecture.
En fait, et là du coup, le but, ce serait quoi, d'avoir plus, encore plus d'appartements?
Alors,
et donc plus.
Nous, on a les projets du projet, maintenant.
Ouais.
Il y a plusieurs. C'est d'aller vers d'autres publics. Pour l'instant, par exemple, il y a beaucoup de mineurs isolés qui sont dans les hôtels.
Ouais.
Donc on aimerait bien trouver.
Ceux-là, tu ne peux pas les prendre, toi. Mineurs isolés, parce que.
Pour l'instant, nous, c'est famille.
Famille. Si un papa, une famille, ça veut dire quoi? Un papa, une maman, un des enfants? Ou s'il n'y a que la maman,
non,
ou
un papa? Un ou parent. Deux parents. Un parent. C'est pas forcément un papa et une maman.
C'est vrai que ça peut être deux papas, ça peut être deux mamans. J'étais en train de me dire ça aussi. Mais tu vois, je suis encore dans mes. Je le couperai pas au montage si tu veux, j'assure.
Non, tu peux couper.
Non, mais en plus,
on aimerait bien trouver un truc. Bah, dans pas longtemps, je vais faire une petite réunion, un petit check-up là, avec d'autres gens engagés dans le secteur. Pouvez essayer de monter un projet sur les MIE ou sur plusieurs projets.
Oui, parce que c'est un drame, c'est mineur isolé.
Tu vois, c'est que nous, on n'a pas la science infuse. Je sais pas, il peut y avoir n'importe qui d'autre, je sais pas, la Fondation Abbé Pierre, la NEF, qui a son propre projet, mais ce qui peut être bien, c'est qu'on dialogue sur nos différents projets et qu'on trouve une spécificité à chacun. Quoi. Parce que c'est vrai que moi, ce serait ridicule que je me prétende prendre la place de la NEF, par exemple. Ils sont mieux armés que moi. Enfin, bref. Pas, en plus, voilà, pas du tout ça. Donc, il y a les MIE, les mineurs isolés étrangers, que sur l'hébergement, j'aimerais bien faire un truc.
Le problème, c'est qu'ils sont encore soumis à leur test osseux.
Donc,
on les considère comme majeurs, alors qu'ils sont mineurs.
C'est
peut-être ça qu'il faut régler déjà.
Quand ils sont hébergés, ils sont considérés comme mineurs. Hein.
Ah oui.
Voilà.
C'est
le problème en amont.
Entre
16 et 20 ans, ils ne bénéficient pas souvent du bénéfice du doute.
On les met majeurs.
Mais on les met majeurs. Donc ce qui fait qu'on a, je crois que c'est une vingtaine, je crois. Les dernières estimes que j'ai eues, parce qu'on a fait aménager de la CIMAD, et je crois que c'est. On est par connu. Il y a 15 cas connus. Par les associations de mineurs qui sont considérés
comme
majeurs par la protection de l'enfance et mineurs par le 115. Donc du coup on a des gens qui autour de 18 ans un peu moins. Mais en tout cas, ils sont à la rue sans voilà, livrés à eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. C'est-à-dire qu'on crée un no man's land pour ces gens-là, enfin, un no right zone, hein, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais ils sont dans. Voilà, et on ferme les yeux là-dessus. Alors qu'on crée du. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, on crée du désordre social, quoi. Alors, normalement, les institutions sont faites pour créer de l'ordre social, pas du désordre, quoi. On favorise, une contre-société, quoi, on va dire. Bon. C'est étrange.
Donc, le projet, c'est des projets du projet, donc oui, c'est.
Ouais, on voudrait aller mieux, puis on voudrait vraiment qu'on a montré que c'était possible, valable, qu'il y avait un bon impact avec le projet à Clermont, on voudrait le dupliquer dans les autres départements.
D'accord.
Voilà.
Et donc, il faut toujours s'appuyer des conseils départementaux, du coup. Ça peut être
des préfectures. Donc, ça va être conseils départementaux ou préfectures.
Donc, ça ne peut pas être au conseil régional.
Non, ce n'est pas du tout sa compétence. Il y a les compétences économiques, formation.
Puis là, c'est un peu mort.
Je ne m'exprimerai pas sur le sujet.
On s'en fout pas.
De toute façon, c'est pas ça.
Ouais, c'est
ça. Mais les conseils régionaux, ils pourraient nous aider, si tu veux, sur le démarrage. Alors, nous, quand on a démarré, on a eu le conseiller régional nous a aidé pour investir.
Et par contre, alors du coup, comment ça marche, Alternative Hôtel, d'un point de vue financier, justement? Merci.
Alors, d'un point de vue financier, c'est le conseil départemental qui, au lieu de payer les hôtels, nous paye nous. Quoi. Ouais. Donc, on a un budget à l'été, qu'on fait un. C'est plus compliqué que ça, mais il y a un tarif à l'été, il y a une subvention de fonctionnement.
Qui vous permet d'avoir les salariés.
Oui, voilà, c'est ça, tu payes les salariés.
Donc ça, c'est une subvention du département.
Ouais. Et on a. Alors, et puis après, tout ce qui est investissement, on va chercher ailleurs. Généralement, les fondations, les dons. L'année dernière, on a fait une campagne de financement participatif qui a bien marché.
On connaît ça.
Avec la. Tu connais. Avec la super plateforme Les Petites Pierres.
Ah
bon ? Ouais, Les Petites Pierres. C'est une plateforme qui est soutenue par la fondation Somfy. Là. C'est les.
Ouais. Les vérandas, les volets, tout ça.
Et ils ont un super truc, c'est que c'est un financement participatif solidaire. C'est-à-dire que tu n'as pas de commission.
Ça, c'est bien.
C'est vachement bien. Peu de commission. Et en plus, ils payent. C'est-à-dire que quand les gens filment 100, eux, ils mettent 100. Ils abondent d'autant que les dons. Donc, nous, on a eu 5000 euros de dons et ils nous ont fait 5000 euros.
Ouais. Tu aurais pu me le dire avant.
Ouais, mais c'est sur le logement. Ils sont spécialisés dans le logement social. Enfin, solidaire. Quoi. Donc là, tu vas retrouver tous les projets Emmaüs, tous les projets. Donc, c'est vraiment que du logement. Oui, sinon.
Et donc, est-ce que vous démarchez d'autres propriétaires? C'est ça que je voulais te demander sur le Puy-de-Dôme, par exemple.
Pour avoir des appartements, tu veux dire? Ah ben après, oui, quand on a besoin d'appartements, on fait des appels dans nos réseaux.
Je me suis dit, c'est rentable pour le propriétaire, parce que de toute façon, il est payé à la nuitée.
Ouais. Ah non.
Non.
Ah non.
Enfin, il est payé.
Le propriétaire, il a un loyer, en fait, c'est un loyer à
lui. Tu verses ton loyer, quoi.
Et lui, il sait qu'il
loue
à une assoce. Voilà. Il a des agréments, on a deux agréments, ingénierie sociale et intermédiation locative. Mmh. Avec le conseiller départemental derrière, donc il sait qu'il sera payé, il y a nos risques.
Et vous cherchez en majorité sur les grandes villes ou
Clermont, enfin, pour Alternative Hôtel, Clermont. Et dans notre projet d'essaimage, on va essaimer un autre département, on attaquera les grandes villes.
Ouais.
Donc là, actuellement, là, on est en campagne de vote là, à la Fabrique Aviva.
Mmh. Oui, donc la Fabrique Aviva,
En gros,
vous demandez 25 000 euros.
Oui, donc on concourt dans la catégorie lien social à 25 000 euros pour financer les études complètes, surtout pour France, pour savoir où est-ce qu'on peut s'aimer, avec qui, où est-ce que c'est le plus prégnant, où est-ce qu'il y a plus de priorité.
Plus de besoin, oui.
comment dire, le besoin social n'est pas le même à Angoulême qu'à Lyon, quoi.
Je sais pas.
C'est vrai que c'est a priori, j'en sais rien.
Moi, j'en sais rien.
On n'en sait rien, ça se trouve. Voilà.
Ça se trouve.
Alors, c'est pas le... enfin, je pense que toutes les villes n'ont pas le même, donc il faut essayer.
Oui, c'est sûr.
C'est de voir quel genre de public, parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y a pour d'autres publics, parce qu'on voit un public jeune, un public... chaque ville a ses propres problématiques, certainement.
Oui. Mettons quoi, Alternative Hôtel, ça va bien. En conclusion, c'est quand même une affaire qui marche.
Oui, c'est une affaire qui marche. Alors, elle marche parce que malheureusement, il y a des besoins. Hein.
Oui.
Mais en même temps, elle marche parce qu'elle répond bien aux besoins. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, on montre que bah, un pauvre, c'est le trivial de dire ça, c'est pas en lui mettant le couteau sous la gorge qu'il s'en sort.
Oui.
En lui donnant des béquilles. Ouais. On l'aide à se soutenir, à se relever, qu'on prenne confiance en lui. C'est ça. Un individu, c'est souvent ce que je dis, moi, c'est des êtres vivants, donc c'est comme une plante. Si tu la mets au soleil sans eau, elle crève, tu vois. Donc il faut un environnement favorable. Donc maintenant c'est pareil, il faut donner un environnement favorable. Je pense que c'est pas en mettant tout sous la gorge qu'on arrive à retirer le meilleur des gens. Mm. Comme les cadres, hein, c'est pas en les pressant comme des brutos, hein, que si tu auras le meilleur pendant 3 jours et puis après tu as un burn-out, ouais, super. Mm. Enfin, c'est une logique un peu de,
bien sûr, hein.
De long terme, quoi, de responsabilité sociale.
Mais le but, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que votre association un jour elle n'existe plus parce qu'elle en a plus besoin de vous.
Ouais. Oui, super.
Pas d'arriver.
Voilà, non. Non, parce qu'on est clairement, on est en plus clairement dans une période, dans une séquence historique où on veut réduire les impôts. Donc ça veut dire réduire les interventions publiques.
Ouais.
Ce qui veut dire moins de capital. À ceux qui n'en ont pas, parce que pour moi le service public c'est le capital de ceux qui n'ont pas de capital personnel, le capital social.
Ça devrait être ça.
Collectif.
C'est pas forcément que ça. Mais...
Oui, c'est pas que ça, mais.
On paye beaucoup pour ceux qui ont plein de capital aussi, je crois qu'ils sont pas là, avec nos impôts, non.
C'est pas faux.
Bah ouais.
C'est pas faux. C'est un autre sujet, mais oui.
Mais enfin fait, voilà, ça devrait, oui.
Mais normalement, l'idée c'est quand même ça. Donc oui, on est dans une séquence politique, une séquence historique où on n'est pas au développement tout asiatique de la puissance publique. Hein. C'est plutôt l'inverse.
Oui, parce que là,
c'est la restriction à
mort. Vous dépendez quand même beaucoup du financement public. Ça veut dire que si un jour on change de conseil départemental et que le conseil départemental suivant ne veut pas vous suivre.
Oui, c'est un risque.
Ça peut être la mort. Mais...
Oui, c'est un risque.
Et vous n'avez pas cherché à essayer d'être plus autonome en fait
Ça veut dire qu'on fasse payer les gens qu'on héberge.
Ça, c'est pas
ils
possible.
Pas bonus, ouais. Ouais. Ils n'ont pas droit au travail. Voilà.
Non, mais du financement solidaire, effectivement, peut-être plus.
Ça ne serait pas à l'échelle. Ce serait pas à l'échelle.
Faire des prestations qui permettent. Parce
qu'on on a des camarades qui font ça. Il y a HSSF qui fait ça. Ouais. Mais ils n'ont pas 20 appartes. Forcément, tu changes.
Et faire des prestations rémunérées. Voilà, un petit chiffre d'affaires.
Je sais pas.
C'est toujours bien de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier.
Il y a aussi nos camarades de Maïs qui ont fait 100 pour un toit, tu sais, ils ont deux maisons solidaires. Donc là, en effet, ils financent uniquement avec la Fondation Abbé Pierre et des donateurs. Quoi. Ouais. Bon, ça, c'est une autre. Quand tu es sur ce modèle-là, tu n'as pas la même. Pas la même échelle.
Oui.
Et moi, je voulais justement aller explorer l'entre-deux mondes. La puissance publique et l'action militante.
Et puis, tu as raison de dire que les financements publics doivent servir à ce genre de problème.
Ouais.
En fait. C'est mieux que les
financements. C'est mieux que l'hôtel.
Puis c'est mieux que l'argent public finance ce genre de choses.
Les propriétaires d'hôtels, hein, ils ont leur business, ils se débattent comme ils peuvent les pauvres.
Ouais, du coup, ça fait un peu. Ils sont fâchés, du coup.
Ouais, non, j'ai pas encore eu ma maison brûlée ou mes pneus éclatés. Mais il y en a qui vivent de ça, hein, c'est clair. Il y en a, c'est 95% de leur clientèle de l'année. Mais sauf que je pense que l'argent public doit aller ailleurs. Quoi. Je pense qu'il est mieux utilisé dans les structures de l'ESS, où nous, si jamais on fait du bénéfice, c'est réinvesti dans le projet. Quoi. On ne rémunère aucun capital. Donc, Donc ça a du sens aussi. Quel circuit on donne à l'argent. Donc on est sur la fabrique à Lira pour pouvoir essaimer. C'est jusqu'au 19 février. Et donc on peut prendre.
Donc il faut aller sur c'est quoi alors le site internet, c'est exactement le site.
La Fabrique Aviva,
.fr.
Sinon le mieux, hein, c'est que
c'est quoi, le
les gens me retrouvent sur Facebook ou sur Twitter.
Emmanuel Bouillet.
Oui, Emmanuel Bouillet, Emmanuel Coop sur Twitter. Sur Facebook, il y a un atelier logement solidaire, l'association qui a sa page. Et donc là on donne l'adresse.
Ouais. Et on peut donner 10 voter. Votes. Moi j'ai donné mes 10 votes pour votre truc, pour Alternative Hotel. Bah, normal. Mais j'en connaissais pas d'autres en fait. Si j'avais eu d'autres potes qui avaient fait les mêmes, j'aurais peut-être partagé. Donc en fait on peut donner 10 votes, mais effectivement on peut aussi donner un vote pour. On a 10 votes. Donc on peut soutenir 10 projets parce qu'il faut être.
Soit soutenir 10 projets maximum.
Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui sont chouettes. Quoi.
Ouais, il y a des chouettes projets. Vraiment, il y a des chouettes projets. C'est là où on voit qu'il y a quand même une richesse dans la société civile, c'est que voilà, la société civile n'est pas morte. Il y a une belle énergie là-dedans. Oui, il y a une belle énergie, on est tout le temps en train de. Enfin, on serait tenté de dire que voilà, le monde est mort, qu'il n'y a plus de solidarité. Mais c'est pas vrai, elle se reconstitue de différentes manières, avec d'autres outils, d'autres manières de s'exprimer. Voilà, ça ne sera certainement pas de la même manière que 68 ou dans les 70, ce sera différent. Mais il y a pas mal d'énergie et puis plein de gens qui ont plein d'idées. Et c'est vrai que du coup ils réinventent des rapports, mais et que bah, souvent ce dont ils souffrent, bah, c'est n'importe quel porteur de projet, c'est d'avoir les financements pour débuter, quoi, hein, pour tester, pour prendre le risque. Il y a des belles choses, il y a vraiment des belles choses.